7h17. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, on revient sur cette décision qui est tombée vendredi, c'est-à-dire le rejet de la plainte de Boeing contre Bombardier.
Oui, pas de droit compensatoire et anti-dumping de 292%. On retourne aux États-Unis. On peut recommencer à vendre notre C-Series aux États-Unis sans être pénalisé de la sorte. Tu te souviens, Paul, il y a 2 ans exactement, je te disais, à la Saint-Valentin, acheter des actions de Bombardier à votre conjointe au lieu de des fleurs. Mais Paul, quel bon conseil j'avais donné. Parce que grâce à l'annulation de la loi anti-dumping, pas de la loi, mais de la pénalité, l'action est rendue à $3.54, alors qu'il y a 2 ans, elle était à 78 cents, Paul. Ça, c'est du rendement. Ça, c'est comme du Bitcoin, là. C'est vraiment du beau rendement. Et là, qu'est-ce qui est arrivé dans tout ça? C'est dans le fond, Boeing peut commencer à tirer l'élastique et aller en opposition et en appel et dire, ben, c'est au monocouloir, on vend des monocouloirs, donc ça pourrait être techniquement dans le même marché. Bien que le marché des avions est beaucoup plus légiféré par l'offre et la demande des transporteurs qui font des choix au niveau de la demande. Mais Boeing avait une stratégie dans le fond, c'était de plomber Bombardier. Bombardier a des mauvaises liquidités, un ratio d'endettement épouvantable, une incapacité à vendre ses avions. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on pesait sur le bouton, on disait, on va brûler leur liquidité parce que dans les résultats financiers, on était à perte dans les trimestres. On était aussi au niveau du bilan, évidemment avec des actifs inférieurs aux passifs. Et on avait au niveau des liquidités 3 milliards au troisième trimestre 2017 et c'était en train de fondre. On était rendu à 1,8 milliard de liquidités dans l'état des flux de trésorerie au troisième trimestre 2017, donc versus 2016. Donc, on avait baissé. Et c'est là que Boeing s'en allait. On était en train de plomber Bombardier. On n'a peut-être pas prévu, par contre, qu'Airbus allait avoir la C-Series pour pas cher.
Oui, mais là, c'est ma deuxième question, ça. Est-ce que si on avait anticipé cette décision-là des Américains, on aurait fait le même deal avec Airbus?
Ça, c'est la question, Paul, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il y avait dans les mains de Bombardier dans le moment? C'est une incapacité de vendre. Parce que même avant la pénalité, on avait de la misère à vendre des avions. Mm-hmm. Donc, je suis pas dans les secrets des dieux de Bombardier. Mais ce que je peux, encore moins maintenant. Mais ce que je peux te dire, Paul, c'est que au niveau des liquidités, ça commençait à sentir pas bon. Si tu regardes les états financiers, l'évolution, on avait besoin de cash et on pensait générer des flux de trésorerie grâce à vos ventes. Et quand on regarde l'état des flux de trésorerie, mais la section opérationnelle générait encore au dernier trimestre publié 208 millions de sorties de liquidités nettes. Donc, on était toujours en train de brûler des liquidités. On attendait d'être capable d'en vendre. Et peut-être que le saut d'Airbus, justement, est devenu donner une consolidation financière au niveau de la confiance des marchés sur Bombardier. Parce que Bombardier, il y a une mauvaise situation financière. Si tu commandes des avions puis l'entreprise va mal, t'as peur qu'ils te livrent pas à temps. Tandis que quand Airbus débarque, avec ses gros Boeing, on dit au moins il y a une grosse compagnie solide derrière. Donc, ça peut aider aussi aux ventes indépendamment des pénalités. Donc, t'as raison, il y a peut-être un impact. Mais je pense qu'au niveau de la capacité de vente, on avait démontré qu'on n'avait pas été capable avant même la pénalité.
Bon, est-ce qu'on doit mettre de l'argent dans un régime enregistré d'épargne retraite ou un régime enregistré d'épargne études?
Je sais, Paul, t'as pensé à ça toute la fin de semaine.
Oui.
Je sais, tu m'en as parlé, tu m'as écrit.
Non. Toi, idéalement, t'en mettrais dans les deux.
Oui, exactement, Paul, t'as tout compris. Il y avait un article dans la presse en fin de semaine qui demandait une conseillère, tout ça. Moi, je vous dis, ça dépend. Première des choses, il faut comprendre que le gouvernement québécois et canadien sont spéciaux les deux. D'un côté, on nous dit « faut aider les moins nantis ». Parfait. Mais d'un autre côté, quand on fait des calculs d'aide, on les fait après RIER. Donc, je te donne un exemple. Si moi, Pierre-Yves McSween, je mets de l'argent dans mon régime enregistré d'épargne études, c'est correct. Mais si je le mets dans mon RIER, qu'est-ce qui arrive? Ça fait baisser mon revenu net, la ligne 275 de ma déclaration d'impôt. Et c'est là-dessus qu'on se base pour calculer ma contribution supplémentaire au service de garde subventionné. Donc, tu comprends que quand tu mets des RIER, tu viens réduire potentiellement ton coût de garderie en même temps. Et d'un autre côté, Justin Trudeau, lui, te dit, si tu mets des REER, ça vient réduire ton revenu et par conséquent, moi, je vais donner une plus grosse potentielle allocation canadienne pour enfants. Donc, au-delà du REER, il faut regarder comment les gouvernements nous aident indépendamment du REER. Donc, il faut regarder notre taux marginal d'imposition, il faut regarder notre contribution, regarder est-ce que j'ai des enfants ou j'en ai pas. Ça influence beaucoup le calcul. Et quand on arrive au REE, ben, comme c'est une subvention à 30% pour tout le monde, c'est bien. Donc, tu prends ton REER, tu prends ton retour et tu le mets dans le REE. Mais Paul, dernier conseil, on en parle souvent, là, mais je pense que je t'en ai déjà parlé, mais faut pas oublier que là, des parents qui m'écrivent, qui me disent « oui, mais Pierre, si mon enfant, le dernier, là, j'ai un peu de misère à l'école, je pense qu'il se rendra pas à l'école très loin, ça me coûtera pas cher. » Je lui réponds la chose suivante. Mets l'argent pareil. Mets l'argent dans le REE. l'enfant va être moins imposé que toi quand il retirera parce que c'est lui qui s'impose sur la subvention et les gains. Et au pire, au Québec, il y a une règle qui s'appelle s'inscrire à l'université à 21 ans sans avoir de cégep. Donc, t'inscris ton enfant une session à l'université, une seule. Tu lui dis, prends un programme non contingenté que t'es sûr d'être accepté à l'UQAM, là. Tu l'inscris. Dès qu'il a son horaire, Paul, il a le droit de tirer le REE.
Au complet? Grand...
Oui, monsieur! C'est beau, hein?
Es-tu sérieux?
Je te jure. Donc,
moi, je pensais
règle...
que tu sortais ça par tranche. Qu'il y avait
oui,
des
avant, tout ça, ça, c'est les collectifs, t'as raison. Mais maintenant, on a assoupli des règles. Mais si tu prends un REE personnel, là, tu vas à ta banque, tu prends un REE, ce qu'il faut, c'est que tu inscrives ton enfant à l'université.
Fait que donc, je l'ai inscrit en philosophie à l'UQAM, puis j'ai l'horaire, je cache. C'est ça?
Un peu, oui. Excuse-moi, mais... Et t'as rendu compte ce que ça fait? Fait que dans le fond, tu disais à ton étudiant, à ton fils... Ça. Mon fils, mettons qu'il a 20 000 dans son REE bientôt...
Juste la contribution la coupe du fédéral, puis tout ça, là.
Ben oui, oui. Fait que là, ce que tu fais, Paul, c'est que tu mets l'argent. Quand il a 21 ans, tu dis, écoute, fiston, je vais t'inscrire à l'université. Ben, je vais rien savoir. Attends une minute, écoute pas bien. Ça va nous coûter 1500 piastres ou 2 000 de frais, mais on va aller chercher toutes les subventions puis tout le rendement. Qu'est-ce que t'en penses? Puis en plus, ça va te faire des nouveaux amis.
Ben oui. Si t'existais pas, il faudrait t'inventer.
T'es gentil, Paul.
Salut, bonne journée. Salut. 7h23.